Le quart d'heure ciné sur RCN.
Margot Gross.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez le quart d'heure ciné, votre émission consacrée aux sorties de films chaque mardi à 17h. Et aujourd'hui, on se retrouve à l'occasion de l'avant-première du film Comme par magie, projeté à l'UGC de Ludres. Et nous sommes en compagnie de l'acteur et humoriste Kev Adams. Bonjour Kev, alors pour commencer, comment se passe la tournée et comment tu vis ces avant-premières ?
Bah c'est la première date, donc je t'avoue que pour l'instant je le vis plutôt bien, hein. Je suis venu juste à Nancy... On fait quelques dates pour ce film de Christophe Baratier, dont je suis très fier. Et moi, j'aime beaucoup faire ça. Je trouve que c'est très important de faire ça quand on fait un film et qu'on l'apprécie. C'est important, je trouve, de venir le présenter un petit peu partout et d'en parler avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, le marché du cinéma, depuis le Covid, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est important d'essayer d'insuffler une envie. Voilà pourquoi moi, je le fais pour tous les films et ce film-là n'y échappe pas. Alors c'est une histoire un peu particulière, en fait c'est moi qui ai demandé à rencontrer Christophe Baratier puisque j'aime beaucoup le cinéma de ce monsieur depuis des années. Je trouve que il a fait des films vraiment formidables, dont certains qui ont vraiment marqué ma vie, quoi. Donc je me suis dit j'ai très envie de le rencontrer. Quand on s'est rencontré, il préparait déjà ce film, enfin il avait déjà ce film en tête, mais pour être très honnête il n'avait pas vraiment moi en tête en termes de comédien pour jouer avec Gérard. Et puis quand j'ai appris qu'il se retrouvait avec Gérard Jugnot presque 10 ans après Les Choristes et Faubourg 36, je trouvais ça dingue et je me suis dit j'ai trop envie d'assister à ces retrouvailles-là. Voilà, donc j'ai un peu insisté pour faire ce film, j'avoue. Et lui pensait à un autre acteur, puis finalement ça s'est pas fait avec l'autre acteur pour 1000 raisons, qui me regarde pas d'ailleurs. Et donc il m'a rappelé en me disant écoute, je t'envoie le scénario, on voit si ça te plaît et tout. Et moi j'étais trop content, quoi. Donc on va dire que j'ai été un peu le chercher avec les dents, quoi.
Qu'est-ce qui t'a plu, toi, justement, dans le scénario de ce film ? Est-ce que c'était ce côté un petit peu fascinant de la magie ?
Oui et non, puisque la magie est assez secondaire, finalement, dans le film. Ce qui m'a le plus plu, c'est surtout de pouvoir faire un film qui reste une comédie, où on se marre, et de faire un duo avec Gérard Jugnot, forcément, c'était un rêve de gosse. Mais aussi avec une vraie, vraie profondeur, une vraie émotion. C'est pas le cas dans tous les films que je fais. Parce que pour le coup, je suis un fervent défenseur de la comédie et je trouve qu'on en a besoin en France. Et d'ailleurs, c'est le style que préfèrent les Français de loin depuis des années. La force de notre cinéma réside en grande partie dans la comédie. Et malheureusement, c'est un style qui est souvent décrié malgré l'amour que les Français lui portent. C'est un style qui n'est pas facile à défendre, la comédie. Et pas seulement en France, un peu partout dans le monde. Donc je me dis qu'il faut se battre pour continuer à faire des comédies et proposer des comédies au public. Je pense que c'est ce dont on a le plus besoin. Moi le côté comédie dramatique m'a beaucoup plu, c'est les films que je préfère en général, c'est les films qui m'ont le plus marqué, le plus bouleversé, c'est souvent des comédies dramatiques, c'est-à-dire des comédies mais avec un fond et un sujet qui parle à plein de gens et qui est ancré dans la réalité. Et voilà, c'est tout de suite je suis tombé amoureux de ce script, j'ai trouvé que c'était formidable. C'était la première fois qu'on me proposait le fait de jouer un papa aussi au cinéma et je trouvais ça intéressant. J'ai eu 32 ans, donc je me suis dit, normalement, c'est une des étapes que je devrais passer, tu vois. C'est pas le cas, malheureusement, dans ma vie privée, mais ça viendra. Et donc, ça m'a plu de jouer un papa esselé et qui vit un drame en même temps et qui le vit avec des up and down. Je pense que c'est ce qui se passe dans la vie des gens quand ils vivent un drame. Je pense qu'ils sont pas tout le temps en train de pleurer. Je pense qu'ils essayent de trouver finalement le soleil au milieu de la tempête. Et c'est ce que font ces deux héros, en fait. Ils essayent de trouver le positif, ils essayent de comprendre comment ils vont avancer. Et puis ils essayent de cohabiter et c'est en ce sens que j'ai trouvé que l'histoire était merveilleuse, c'est que là ils vivent un drame qui est le leur, mais ça peut faire référence à plein de complications que les gens peuvent vivre et faire écho à ça et leur rappeler que malgré tout, de rire et de continuer à vivre, c'est finalement la seule solution de passer des étapes très difficiles. Et donc voilà, donc, c'est un message qui me plaît et donc tout me plaisait dans le film, je me suis dit vas-y je vais foncer. Hein. C'est un mec qui je crois est pas prêt à être papa pour le coup. C'est un personnage qui m'a aussi beaucoup parlé pour ça, c'est que ça fait un peu écho, moi, à ma vie personnelle. Il y a beaucoup de gens qui, dans ma famille qui me poussent finalement à passer des étapes dans ma vie privée. J'en parle d'ailleurs dans mon dernier spectacle beaucoup, le fait d'avoir peut-être du mal avec l'engagement, d'avoir du mal avec le fait justement de passer des étapes, de quitter le monde de l'enfance, c'est quelque chose qui est dur, donc il m'a parlé en ce sens, ce personnage. Après, c'est un magicien, plutôt un magicien qui vit aussi un bouleversement dans sa carrière dans le film, puisque on comprend que c'est plutôt un magicien qui fait ça dans les banquets, les anniversaires, et qui soudainement, au moment où il vit le plus grand drame de sa vie, va voir sa carrière finalement évoluer et avoir la chance de jouer dans des théâtres. Et donc en fait il y a plein de corrélations avec ma vie forcément. Je sais ce que c'est que d'aller faire des banquets ou des anniversaires un peu bidons. Je l'ai fait aussi, et je sais aussi ce que c'est d'avoir la chance de pouvoir jouer dans des grands théâtres, voir des zéniths parfois, et c'est toujours un bouleversement quand ça nous arrive, puisqu'en réalité on change pas grand chose à ce qu'on fait. Moi je sais que j'avais toujours la même détermination et la même envie de faire rire les gens, que ce soit dans des toutes petites salles, dans des banquets, dans des anniversaires, ou après dans des théâtres ou des grandes salles. Et ça a un impact sur notre vie forcément, et sur la vie privée aussi qu'on peut avoir. Et lui, pour le coup, il vit un bouleversement dans sa vie privée au même moment qu'un bouleversement dans sa carrière. Donc je trouvais que c'était bien pensé, quoi. Voilà.
Tu parlais tout à l'heure de Gérard Jugnot. Alors justement, c'était comment de jouer avec Gérard Jugnot? Comment était déjà l'entente sur le plateau?
C'est incroyable, c'est une Rolls-Royce, hein, le mec. Hein. C'est un grand pilier de la comédie française. C'est pas pour rien. Je pense que si les Français sont tombés amoureux de la troupe du Splendide, c'est parce que c'est des gens qui font écho à notre vie, à notre quotidien. C'est des gens qui portent la comédie et l'émotion en eux. J'ai eu la chance de tourner déjà avec Christian Clavier dans Les Profs, avec Michel Blanc dans Aladdin. Et là, de pouvoir partager l'affiche avec Gérard, c'était vraiment exceptionnel. C'est quelqu'un qui maîtrise son art à la perfection et qui a ce côté très drôle et en même temps terriblement émouvant. Il nous l'a montré dans des films comme Les Choristes ou Monsieur Batignolles, qui sont pour moi des films références, parmi les plus beaux qu'on ait fait, je trouve, en France. Et puis d'avoir la chance d'assister aux retrouvailles entre Baratier et Gérard Jugnot, c'était fou, quoi, tu vois. C'est comme si... je sais pas, c'est comme si t'adores. Moi, j'adore par exemple aux États-Unis le duo Scorsese-DiCaprio, tu vois. Si un jour on te dit dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que ça te dit de faire un film avec les deux, c'est encore plus fou que de faire un film juste avec l'un ou juste avec l'autre, quoi. Donc ouais, je dirais que c'était une double chance. Christophe Baratier fait un cinéma, tu peux reconnaître ses films aux premières images, tu vois. C'est quelqu'un qui a un cinéma très poétique, il a envie de raconter des histoires toujours très fortes. Et donc c'est une chance de tourner avec un réalisateur comme ça. Et quand il est avec son acteur fétiche, il y a forcément une espèce de connexion entre eux qui est assez dingue, quoi. Tu vois, ils se comprennent en un regard. Donc moi, j'ai adoré être au milieu de ça, forcément, quoi. C'était assez magique, franchement.
Tout à l'heure, du coup, tu parlais du fait que tu avais un rôle de père dans ce film. À quoi tu t'es rattaché pour imaginer cette paternité dans ce tournage?
Franchement, au conseil qu'on m'a donné, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui sont tous papas, quoi, tu vois, que ce soit Jugnot, Baratier, le producteur, Marc Etienne, c'est des gens qui ont vécu le fait d'élever des jeunes enfants, et donc j'écoutais les conseils qu'ils me donnaient, et voilà, hein, c'est à ça que je me suis rattaché. J'ai essayé de comprendre le mieux possible la psychologie d'un père, et aussi de comprendre ce côté très soudain. Je pense que, et c'est d'ailleurs plutôt bien exprimé dans le film, je pense que c'est plus facile pour une femme de devenir maman que pour un homme de devenir papa. C'est-à-dire qu'une femme a 9 mois pour s'y préparer, pour connecter aussi avec l'enfant. Pour un homme, c'est très particulier, ça arrive du jour au lendemain. Alors on s'y attend sans vraiment s'y attendre, et puis d'un coup, tu dois... Enfin, t'as un amour fou pour une espèce de nourrisson avec lequel c'est dur de créer du contact et du lien au tout début. Et donc, c'est intéressant aussi de traiter ce sujet-là dans le film. Et le film parle de ça, parle de ces gens qui, en même temps, qui vivent un drame terrible et qui sont dans un deuil terrible, apprennent à être père. On sent que lui, il a été, quand je dis lui, c'est Gérard Jugnot, son personnage, on sent qu'il a été très proche de sa fille. Et donc, il se rattache finalement à cet enfant pour garder cet amour paternel. Et puis moi, j'essaye de l'avoir au milieu de la tempête. Donc, c'est hyper intéressant de voir des hommes très fragiles essayer d'être père, tu vois, souvent les hommes au cinéma, il y a ce côté un peu indépendant, un peu fort, tu vois. Et je trouvais que la fragilité de ces personnages, le côté ils sont perdus, quoi. Je trouve que ça, c'est super cool de montrer ça aussi. J'ai tout appris de A à Z. J'ai été formé par un magicien formidable qui s'appelle Fred Razon, qui est un mec vraiment très très doué, qui est aussi un pickpocket. Enfin, il arrive à te prendre ta montre en 14 secondes sans même que tu t'en rendes compte. Enfin, le mec est très très fort, franchement. Et il m'a appris beaucoup de tours, ça a pris plusieurs semaines de formation. Puis moi, ça m'a grave amusé. Enfin, moi, j'achetais des petits tours de magie quand j'étais petit, tu vois, en cadeau de vacances, d'avoir la petite boîte avec, qui fait disparaître la pièce ou des trucs comme ça, c'est, j'adorais ça. Donc on va dire que j'ai pas de lien particulier avec la magie, mais comme tout le monde, je trouve ça fascinant, magique. Il y a un côté un peu vieux comme le monde, et en même temps, tu sais, c'est des tours, on les a tous déjà vus, et en même temps, ils nous fascinent toujours autant. Donc ça me plaisait d'apprendre ça. Et puis moi, c'est la raison précise pour laquelle je fais du cinéma. C'est que quand j'étais voir la conseillère d'orientation à 18 ans, elle m'a dit « Vous voulez faire quoi dans votre vie ?» Et en fait, j'avais envie de tout faire, tu vois. Donc je trouve ça top de pouvoir un jour être magicien, le lendemain directeur d'EHPAD. Tu vois, j'ai la chance de pouvoir vivre des vies différentes Enfin, à chaque fois que je le fais, je suis vraiment à fond dedans. Je pose 1000 questions, j'essaie de comprendre vraiment la psychologie de ce qui les pousse à faire ça. Et les magiciens, ce qu'ils cherchent, c'est la surprise, c'est cet éclat dans l'œil du spectateur, tu vois. Et je trouve que c'est incroyable, quoi. C'est ça leur meilleure récompense. C'est quand ils voient le côté « Non, waouh, putain, je m'y attendais pas ». Moi, ce que je fais, moi, je cherche à donner du bonheur aux gens, à les rassembler quand je monte sur scène, donc... Il y a vraiment cette similitude avec la magie pour le coup.
Et est-ce que du coup ça t'a donné envie d'aller plus loin dans la magie, d'apprendre encore plus de tours que tu connais déjà maintenant?
Non, pas vraiment, mais j'ai toujours mis un peu de magie dans mes spectacles, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est toujours très intéressant. Sur le final de mon spectacle Voilà, il y a quelques années, je montais sur les murs, sur le final du spectacle avec Gad, on décollait dans le ciel complètement par magie, comme des cosmonautes. Sur le final de mon spectacle Miroir, je refaisais apparaître mon grand-père qui a disparu il y a quelques années, et puis je le rejoignais dans le ciel et tout ça. J'aime toujours ce côté très... je trouve qu'il y a toujours un côté qui nous ramène à l'enfance, quoi. Tu vois, quand tu regardes un tour de magie un peu bien exécuté, toujours tu te dis waouh, ça fait passer les messages d'une manière encore plus forte, je trouve. Donc moi j'adore ça, mais après, non, je suis pas un meilleur magicien que je l'étais avant. Je sais faire 2-3 tours grâce à Fred, tu vois, mais pas aussi bien que lui, non. Quel tour préféré? C'est une bonne question. Il y a plein de tours. Je trouve qu'il y a un tour dans le film qui me plaît beaucoup. C'est quand il transforme un bout de papier en rose. C'est très anodin et en même temps, c'est assez ouf, quoi. Je trouve que les transformations, souvent, c'est dingue. C'est des trucs que tu vois pas venir et tout. Donc, j'aime beaucoup ça. Voilà. Non, parce que ça donne un autre plaisir, en fait. Le plaisir du magicien, c'est justement de partager son secret et d'attendre que toi, tu y arrives pour retrouver cet éclat dans l'œil, en fait. Tu vois, donc je crois que c'est un plaisir, c'est un autre plaisir, en fait. Alors oui, il y a des tours que Fred m'a fait où je sais pas c'est quoi le truc et je veux pas le savoir, tu vois. J'ai kiffé d'être spectateur, mais je trouve que parfois aussi de connaître le truc, ça donne un autre plaisir, donc c'est cool aussi.
Comment tu vis, toi, l'évolution de tes personnages au cinéma? Parce que c'est vrai qu'on t'a vu pas mal prendre de maturité dans tes personnages depuis le début de ton parcours. Moi qui ai grandi avec Soda, là on en est loin. Alors comment tu vis ça?
Bah bien, je crois que c'est la clé de la longévité, c'est d'évoluer avec ses envies et de proposer des choses différentes. Je pense que si je jouais pas un papa aujourd'hui, mais... une énième fois un ado dans les profs, je pense que les gens seraient saoulés, je les comprendrais, tu vois. Je pense qu'ils se diraient c'est dommage que ce mec-là n'évolue pas un peu ou ne nous propose pas d'autre chose. Et puis même sans vraiment penser au public, de manière très égoïste, moi j'ai envie de proposer plein de choses très différentes, donc je suis un peu mon instinct, ce que j'ai toujours fait. Je le fais toujours avec la même envie, la même ferveur, et je me pose pas trop de questions. Il n'y a pas vraiment de stratégie dans mes choix, tu vois, contrairement à d'autres comédiens. Tu vois, je suis pas en train de me dire ce serait bien que je fasse ça, comme ça va être surprenant. J'essaye de suivre un peu mes envies. Je te dis, Baratier, pour le coup, c'est un mec avec qui j'ai très très envie de tourner. J'ai demandé un rendez-vous avec lui. Le méga aurait pu me dire on pourra bosser ensemble dans 3 ans. Il se trouve que ça s'est fait hyper rapidement, qu'il y a eu une espèce de connexion, d'alignement des astres, tu vois. Donc voilà, il y a plein d'autres metteurs en scène aussi avec qui j'ai demandé des rendez-vous. Certains ont refusé, tu vois, de me rencontrer, d'autres n'avaient rien pour moi. Ce qui est sûr, c'est que je garde la même ligne de conduite. Ma ligne de conduite depuis le début, c'est n'attends pas que ça vienne à toi, tu vois. T'es pas le profil, sans me rabaisser, mais t'es pas un profil sur lequel on va penser naturellement, tu vois. Donc il faut que t'ailles chercher un peu les trucs. Et ça a été un peu comme ça toute ma vie, en fait, tu vois. Si je regarde bien... Déjà, mon premier film au cinéma, Les Profs, à l'époque, le rôle de Boulard était un rôle de figuration et j'ai été faire chier le réalisateur PEF pour lui dire « Mais fais-moi grossir le truc, je peux t'en faire quelque chose de mieux. » À faire 40 rendez-vous avec lui au bureau de prod, tu vois, jusqu'à que le truc devienne un vrai rôle. Le film Fiston, j'ai été sous les Franck Dubosc pour qu'il accepte de le faire avec moi. Et c'est un film qu'on a totalement initié avec mes producteurs de l'époque, écrit, développé autour de moi. Aladdin, c'est la même chose, c'est une envie. J'avais ce script qui traînait depuis des années, qui à la base était pour Jamel Debbouze, et que j'ai pris et que j'ai, tu vois, je me suis tapé pour dire maintenant il faut que ça soit moi, je vais le défendre, je vais vous le faire. Après Ami Public, Tout là-haut ou Love Addict sont des films que j'ai carrément produits, développés, coécrits. Pareil pour Maison de retraite qui est sorti récemment, c'est un film que j'ai écrit, produit et développé de A à Z et même financé avec beaucoup de complications. Donc je crois que chacun a son histoire, chacun a sa manière de faire, et je crois que ma manière de faire à moi, il y a un côté un peu artisanat, quoi, tu vois. C'est pas vraiment une espèce de grosse machine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est souvent, tu vois, un truc très, très vrai, très terre à terre, de je te rencontre, on se rencontre, on fait le truc parce que j'ai envie de faire le truc, et que je sais que si je le fais pas moi, bah on va pas me l'amener, quoi, tu vois. En fait, les tournages, moi j'avais jamais vécu ça, mais c'est hyper intéressant, se font au rythme de l'enfant. Quand la petite elle est pas contente et qu'elle a pas envie de tourner, bah personne va tourner. Tu te doutes bien qu'on va pas forcer un enfant à tourner un film. Donc c'est particulier. En même temps c'est amusant, et en même temps moi ça me permettait à fond de rentrer dans mon rôle, puisque du coup je me retrouvais parfois seul avec la petite, avec le bébé. Les parents me laissaient vraiment, tu vois, faire, et j'étais en mode ok, bon, si j'arrive à maintenir son attention, tu vois, si j'arrive à garder son attention pour qu'on tourne, bah c'est peut-être ce que ferait aussi un père, tu vois, s'il était seul avec un nourrisson. Donc pour le coup, moi le truc m'amusait, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments très très compliqués sur le tournage. Il y a des jours où on a dû arrêter le tournage, reprendre le lendemain parce que on sentait que la petite était épuisée. Il faut savoir qu'un enfant, c'est jamais plus que 4 heures de tournage dans la journée. Pour les nourrissons, c'est 3 heures. Donc quand on sait le temps que ça prend le cinéma, c'est pas évident, quoi. Tu vois, quand un tournage de film, ça dure en général entre un mois et demi et 2 mois, et donc il fallait rentrer le film dans ces 2 mois-là, et il fallait relever des défis chaque jour, et en fait c'était assez intéressant. Enfin, moi de toute façon tout m'intéresse quand c'est des challenges et des défis, et donc c'était cool de le faire, c'était intéressant de le faire. Après oui, il y a eu des moments où j'étais un peu perdu, où je m'en voulais, je me disais peut-être j'aurais pas dû faire ça ou dire ça, ou... parce qu'un nourrisson, il suffit d'un geste, tu vois, pour que d'un coup bah il se braque et qu'il soit plus, tu vois, il est pas envie, elle a plus envie, quoi, la petite. Donc mais on a eu la chance quand même d'avoir des comédiennes, je pense à celle qui est justement la plus âgée, là, elle est assez incroyable, franchement. Ça, c'est la force de Baratier, c'est la force de Christophe. Mais c'est vrai, c'est un mec qui sait bosser avec les enfants, il l'avait déjà fait dans Les Choristes, il sait amener les enfants là où il veut, et donc voilà, pour le coup, sur cette scène particulière, il a usé d'une espèce de technique, tu vois, où c'était horrible. D'ailleurs, moi, je m'en voulais, quoi, je me disais, mais c'est horrible de lui faire ça à la gamine, mais on l'a fait qu'une fois, et au final, il a eu ce qu'il voulait, quoi, tu vois. Donc voilà, mais en fait, la maman est tout le temps là, et c'est une fille qui voulait être tout le temps avec sa mère, ce qui est normal. Et donc, il a usé de ça en disant, il a pris la mère en complice en disant, voilà, il faudrait que tu fasses ci, ça, tu vois, si ça, c'est possible, et comme ça, j'obtiendrai ce que je veux, quoi.
Est-ce que justement, t'as un plaisir différent quand tu joues dans un film ou quand tu joues tes spectacles, d'ailleurs ?
Ah ouais, c'est un plaisir très, très différent, ça n'a rien à voir, même. Je dirais que quand tu montes sur scène pour faire du one man show, c'est quelque chose de vraiment, t'es en solo, quoi. C'est un taf solo. Alors évidemment, je suis avec toute une équipe et ils me soutiennent, et sans eux ce serait beaucoup plus compliqué, mais tu vas monter sur scène, t'es tout seul, tu vois, tu peux pas refaire la blague. Si tu la rates, tu la rates, et tu la rates en général devant 3 ou 4 000 personnes, donc c'est pas fou, quoi. Alors que là, tu rates une phrase, tu ripes sur un mot, bah coupé, puis on la refait. Et puis c'est vraiment un travail d'équipe, le cinéma. Ça arrive de refaire des scènes alors que toi t'as été très bon, juste parce que le son ça a bugué un peu, ou parce qu'il y a quelqu'un qui est passé dans le champ, et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Sans les gens du son, ou sans ce mec là qui est passé dans le champ, on pourrait pas faire le film non plus, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, tu vois. Donc je le vois vraiment comme ça. Et puis même dans le rythme de vie, c'est autre chose. Quand tu fais des tournées de spectacle, j'ai eu la chance d'en faire une cette année, tu vis la nuit, tu vois. Moi je fais des siestes de 17h à 19h, après je me prépare, j'ai toute une espèce de préparation sportive, puis je monte sur scène pendant 2 heures, puis tu sors de là, il est 23h, 23h30, t'es dans un état qui est compliqué à expliquer ou à comprendre, d'adrénaline qui est dingue, quand t'as 3500 personnes qui crient, tu vois, il y a un côté très intense, donc tu mets du temps à redescendre de ça, et donc tu te couches tard, et donc qui dit que tu te couches tard, bah tu te lèves tard, donc il y a une espèce de rythme comme ça, un peu décalé, tu vois, un peu de décalage horaire, ce qui est l'inverse au cinéma. Le cinéma, comme les journées sont précieuses et que la lumière du jour est précieuse, et ben tu te lèves très tôt, en général aux alentours de 5h du matin, et puis tu rentres chez toi, il est 19h et t'es épuisé, et à 20h15 t'es au lit. Moi ça me plaît justement, depuis le début de ma carrière, ça fera bientôt 15 ans, tu vois, d'alterner non-stop entre ces deux rythmes-là. Alors, pendant un moment, j'ai fait même les deux en même temps. Ça, c'est très compliqué. J'ai mis un peu ma santé en danger à ce moment-là. Mais je trouve que d'alterner l'un et l'autre, tu vois, de pouvoir faire des tournées de spectacle et ensuite, entre guillemets, d'aller calmer les choses un peu au cinéma, c'est très, très cool. C'est très enrichissant. Et puis, ça te permet d'avoir un peu une vie normale, en fait, tu vois. Je crois que si tu fais que des spectacles, bah tu deviens un peu fou, quoi, tu vois, c'est un rythme trop compliqué. Et je pense que si tu fais que du cinéma, bah t'as une vie d'un mec de 80 ans toute ta vie, quoi, tu vois, tu te couches à 20h30, tu te lèves à 5h. Moi ça m'arrive pendant les tournages, même le week-end, d'être épuisé, quoi, tu vois, parce que t'es sur un autre rythme, parce que tu déjeunes, il est 11h30 parce que t'es affamé, tu dînes, il est 19h15 parce que t'es affamé, et à 20h30 t'es épuisé, tu vas dormir, quoi, tu vois. Donc les rythmes de vie sont différents. Et en fait, qui dit rythme de vie dit toute ta vie, en fait. Ton rapport avec tes proches, avec tes amis, avec tes sorties, avec tes loisirs, tout est bouleversé un peu, en fait. C'est des métiers qui demandent beaucoup d'implication, on va dire. Ça fait 15 ans que je me bats pour que les projets existent. Ensuite, je me bats pour que les projets rencontrent leur public. Et ensuite, je me bats sur les réseaux pour leur dire ne vous fiez pas à ce que vous avez comme image de moi et allez les voir et donner leur chance. Et en fait, c'est un éternel recommencement depuis 15 ans. Donc, il y a une fragilité en moi aussi, je pense, un épuisement, et on le sent aussi parfois chez ce personnage. Ce côté, la montagne est trop grande finalement. Je ne sais pas si je vais réussir à passer cette montagne-là. Et moi, c'est une sensation que j'ai souvent ressentie dans ma vie. Et en même temps, quand tu arrives finalement à passer cette montagne, bah, tu ressors toujours plus fort, quoi.
Plus de satisfaction.
Oui, si, bien sûr. Ah si, c'est sûr que ça donne plus de satisfaction. C'est sûr. Non, je disais plus, en lien avec ce personnage-là, il y a ce côté-là, ce côté, cette fragilité, je pense, franchement, et puis et puis cette détermination aussi, peut-être.
Merci beaucoup, Kev, de nous avoir accordé cette interview. Merci à toute l'équipe du film Comme par magie, on le rappelle, qui sort en salle le 15 novembre. Vous pourrez le découvrir sur le grand écran. Merci aussi à l'équipe UGC qui nous permet de faire ces belles interviews. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Rendez-vous mardi prochain à 17h pour la prochaine émission.